Des livres plein les oreilles, spécial Noël. Bonjour mes amis, oui, difficile, puisque cette émission sera diffusée dans la semaine du 20 décembre, de ne pas évoquer Noël et surtout les derniers cadeaux peut-être à glisser sous le sapin. Alors, il en sera question aujourd'hui, il sera aussi beaucoup question de notre nouvelle boutique en ligne, la boutique en ligne de livres audio Vues et Voix, livres audio commerciaux enregistrés ici, qui se retrouve également en version adaptée au SQLA, mais adaptée aussi quand vous achèterez le livre commercial de notre boutique en ligne. On en parle à l'émission. Et il va y avoir plein d'extraits de livres, je vous le disais, à glisser sous l'arbre et à glisser aussi entre toutes les oreilles. Il y aura des livres pour les plus jeunes, pour les moins jeunes. Il y aura des romans passionnants. On évoquera même un prix Goncourt déjà enregistré. On parlera de polars inoubliables et il y aura deux chroniques de véritables dévoreurs de livres que sont Gérald Cousineau et Faline Bobier de Caeb. Et puis tiens, pour commencer, une première suggestion avec des livres qui, lorsqu'ils sortent en imprimerie, sont des incontournables. Tout le monde se les arrache comme des petits pains. Alors maintenant qu'ils existent en audio, je me dis pourquoi ne pas offrir ça comme cadeau de Noël, notamment le livre « La jeune fille et la nuit » de Guillaume Musso. Un campus prestigieux figé sous la neige, ça déjà, c'est du Musso tout craché. Trois amis liés par un secret tragique. Une jeune fille emportée par la nuit. Extrait.
Je garais la voiture de location sous les pins, près de la station-service, à 300 mètres de l'entrée du lycée. J'étais venu directement de l'aéroport après un vol New York-Nice pendant lequel je n'avais pas fermé l'œil. La veille, j'avais quitté précipitamment Manhattan après avoir reçu par mail un article évoquant le 50e anniversaire de mon ancien lycée. Le courrier m'avait été envoyé via la messagerie de ma maison d'édition, par Maxime Biancardini, qui était autrefois mon meilleur ami, mais que je n'avais pas vu depuis 25 ans. Il m'avait laissé un numéro de portable que j'avais hésité à composer avant d'admettre que je ne pouvais guère faire autrement. « T'as lu l'article, Thomas ?» m'a-t-il demandé presque sans préambule. « C'est pour ça que je t'appelle. Tu sais ce que ça signifie ?» Sa voix résonnait des intonations autrefois familières, mais elles étaient déformées par la fébrilité, l'urgence et la peur. Je n'ai pas tout de suite répondu à sa question. Oui, je savais ce que cela signifiait. Que c'était la fin de nos existences telles que nous les avions connues. Que nous allions passer la prochaine partie de notre vie derrière des barreaux.
C'est du Guillaume Musso, je vous le disais, ça se retrouve soit absolument gratuitement au Service québécois du livre adapté, ici pour vous au Québec, ou sinon sur toutes les plateformes commerciales. Un autre livre qui est toujours, et surtout un autre auteur qui est toujours très attendu par les amateurs du genre, c'est Ken Follett qui nous arrive cette fois-ci avec le réseau Corneille, qui est maintenant également disponible en version audio. Nous sommes en France en 1944. Betty a 29 ans. Elle est officier de l'armée anglaise, l'une des meilleures expertes en matière de sabotage. À l'approche du débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand en France. Après une première tentative catastrophique et coûteuse en vie humaine, Betty va jouer le tout pour le tout en recrutant une brigade unique en son genre, le réseau Corneille. Il s'agit d'une équipe de choc, 6 femmes à la personnalité hors du commun. L'aristocrate, la taularde, l'ingénue, la travestie. Chacune va apporter sa touche très personnelle à ce grand sabotage. Le réseau Corneille par Ken Follett, extrait.
Cela faisait 15 ans que Dieter l'avait perdu de vue. Mais il devinait sans mal quelle avait été la carrière de Weber. Inscrit au parti nazi, organisateur volontaire, Il avait posé sa candidature à un poste dans la Gestapo en invoquant sa formation de policier et il avait rapidement gravi les échelons dans ce milieu de sous-fifres aigris. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Weber. « Je suis envoyé par le Feldmaréchal pour contrôler la sécurité. »«
Notre sécurité est satisfaisante ?»
rétorqua aussitôt Weber en se hérissant. « Pour une usine de saucisses, peut-être. Regarde autour de nous. » D'un grand geste, Dieter désigna la place. Et si ces gens étaient membres de la résistance? En quelques secondes, ils pourraient descendre vos gardes. Il désigna une jeune fille portant par-dessus sa robe un léger manteau d'été. Imagine qu'elle ait une arme sous son manteau. Et si... Il s'arrêta. Il comprit soudain que ce n'était pas un simple fantasme qu'il évoquait pour illustrer sa démonstration. Son inconscient avait remarqué que sur la place, on se déployait en formation de combat. La petite blonde et son mari s'étaient réfugiés dans le bar. Les deux hommes qui s'attardaient devant l'église étaient postés derrière des piliers. La grande fille en manteau d'été, qui quelques instants plus tôt regardait la vitrine d'un magasin, se tenait maintenant à l'ombre de la voiture de Dieter. Au moment précis où il posait les yeux sur elle, le vent écarta les pans de son manteau. Et il eut la stupéfaction de constater que son imagination s'était montrée prophétique. Elle cachait contre elle une mitraillette, du modèle préféré de la résistance.
Hitler a perdu une bataille, mais la peur n'a pas perdu la guerre.
Oui, la voix de Charles de Gaulle de Londres qui dit que la France a perdu une bataille mais qu'elle n'a pas perdu la guerre. Et puis, c'est quelques notes de musique que vous connaissez peut-être. C'est la bande originale d'un film qui avait été un succès énorme en France, un film de René Clément qui s'appelait « Paris brûle-t-il ». Et dans ce film-là, c'est un film qui retrace l'histoire de la libération de Paris en 1944 et qui se base sur des documents historiques, notamment... un livre que l'on doit à Dominique Lapierre et Larry Collins, que je n'ai pas retrouvé en audio malheureusement, mais il existe en braille. Alors je vous le précise, si des fois vous désiriez aller vous référer à ce bouquin au SQLA. Et donc ce livre est tiré d'une histoire vraie et d'une histoire absolument terrible qui est celle-ci, c'est que les Allemands se sentant mis à la porte de la France, hein, qu'ils occupaient depuis des années, et se sentant perdre la guerre, il y avait eu un pacte qui avait été passé alors que Hitler avait donné l'ordre à von Scholtitz de détruire Paris en 1944. Autrement dit, avant de partir, on va bousiller la capitale française. Imaginez, tous ces monuments que vous connaissez, que vous appréciez quand vous allez visiter la capitale, auraient été pulvérisés par les Allemands. Il a fallu un bonhomme qui était ministre à l'époque, qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas, qui est joué par Alain Delon, et la résistance française pour sauver Paris de ces bombardements. Écoutez, non seulement c'est un grand film, mais écoutez bien la distribution. Alain Delon, Jean-Louis Trintignant, Yves Montand, Orson Welles, Kirk Douglas, tous ces gens-là jouaient dans Paris brûle-t-il. Et puis cette musique absolument extraordinaire, on va l'écouter, elle est de Maurice Jarre.
Thank you.
Ouais, une musique qui sentait l'épopée historique. Un Paris brûle-t-il, film de René Clément, musique de Maurice Jarre. Bonjour, monsieur Gérald Cousineau.
Bonjour, madame Clotilde Saïd.
Gérald, je suis tellement contente qu'aujourd'hui, avec tous les moyens que nous avons et grâce au traité de Marrakech, vous avez accès à toutes les bibliothèques francophones du monde. Et c'est maintenant ce que vous, Gérald, entre autres, vous avez bien compris, en vous tournant notamment vers la médiathèque à Paris, qui dépend de l'association Valentin Huy. Et là, vous êtes allé, vous avez pu vous télécharger le prix Goncourt 2018, ce qui est quand même fantastique.
Oui, la médiathèque a ceci de très bien, c'est qu'on y trouve des livres vraiment récents et je pense que tous les prix littéraires de 2018 y sont déjà, là, dont le plus important, évidemment, le prix Goncourt, Nicolas Mathieu. Un jeune homme, je pense que c'est son deuxième livre seulement, il a 40 ans, donc tout jeune homme. Leurs enfants, après eux, paru cette année, c'est une brique, Clotilde, dans 532 pages.
Oui.
C'est une brique et je l'ai écouté deux fois, cette brique.
Oh, wow!
En deux jours.
En deux jours.
Ah oui, en deux jours, je me suis imposé ce marathon.
Petite parenthèse, j'ai vu qu'il avait été enregistré de deux façons pour la médiathèque, par une voix d'homme et par une voix de synthèse.
La
voix
de synthèse. Moi, j'ai eu la voix de synthèse.
Bon, eh bien, bravo, parce que honnêtement, là, n'allez pas vous télécharger celle avec la voix d'homme. Je suis désolée, mais c'est une vraie catastrophe.
C'est
absolument inécoutable.
Dommage.
Alors, je voudrais préciser que les voix de synthèse de la médiathèque se tiennent vraiment fort bien.
Oh oui.
C'est bien fait.
Celle que j'ai écoutée s'appelle Manon.
Manon, c'est
ça. Vraiment, c'est une très bonne lectrice, cette Manon.
Alors,
donc,
ce livre.
Nous sommes à l'été 1992 dans une vallée. On parle d'une vallée dans le nord-est de la France, en fait, tout près du Luxembourg. Et dans cette vallée-là, en août 1992, il y a une petite ville, Ayange, je ne sais pas si elle existe vraiment, j'imagine que oui, Ayange. Donc dans cette ville, il y a quatre adolescents, il y a Anthony, il y a Clémence, il y a Stéphanie et il y a Hassine. Et on va les suivre de 1992 à 1998, mais toujours l'été. Et ce qui est curieux, c'est qu'on va les suivre pendant quatre étés, mais disséminés entre 1992 et 1998. Donc, le personnage principal, disons, l'un des quatre mousquetaires, c'est Anthony. Il a 14 ans à l'été 92 et on va le retrouver à la toute fin en 98. Il a 20 ans à ce moment-là. Donc, à l'été 92, Anthony et son cousin, ils s'emmerdent, littéralement. Il fait très chaud, extrêmement chaud, dans ce coin de France. Et là, ils décident de voler un canoë. Un canot pour nous.
Oui.
Ils vont aller explorer une plage naturiste de l'autre côté du lac qui longe leur petite ville. Bon, malheureusement pour eux, il n'y a personne nu le moment où ils se présentent sur la plage naturiste. Mais là, il y a deux jeunes filles en maillot de bain et l'une des deux, c'est Stéphanie. Et Anthony va tomber amoureux de cette Stéphanie et ça va le suivre jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors, on va les suivre, donc, ces quatre adolescents. Et là, je dirais que le portrait que fait l'auteur, c'est pas Jojo. Le portrait, non seulement de ces ados, mais de ce coin de France. Oh là là, que c'est triste. Vous savez, nous sommes au moment où la classe ouvrière se défait peu à peu. Il y a l'invasion du numérique, tout ça, la mondialisation. Et on constate vraiment les effets néfastes de la mondialisation. Et là, qu'est-ce qui domine dans ce paysage? Ben, même les jeunes, 14 ans et 15 ans, c'est quoi? Mon Dieu, c'est l'alcool. Ça boit, Claudie, dans ce roman, c'est pas possible. Mais pas seulement ça, ça prend de la marie, en fait, ce qu'ils appellent le shit, et de la cocaïne, et tout y passe, là. Et même, il y a des ados qui deviennent des trafiquants de drogue. Oh là là, que le portrait est sombre, parce qu'ils sentent qu'ils sont pas comme... Ils vont à l'école, mais sans trop y croire, ils devinent que leur avenir, c'est pas à Yange qu'il va se tisser, donc ils rêvent de partir, mais ils ne partent pas. Les parents, les familles sont dysfonctionnelles, les parents sont souvent séparés, ou les hommes battent leurs femmes, ou les hommes vont se saouler au bistrot, ajouter à tout ça la maladie du soccer, parce qu'en 92, en 98, quand ça se termine, il y a les demi-finales, et la France va gagner, et là, l'auteur a vraiment des phrases un peu cruelles, il va dire, par exemple, pour 98, le pays bramait à l'unisson.
Oh oui.
je ne sais pas qui est ce narrateur, mais il y a comme un cynisme qui enveloppe tout ça, c'est terrible.
Ah oui, oui.
Mais,
est-ce que c'est, excusez-moi de vous poser la question, oui, oui. Gérald, parce que j'en ai lu de larges extraits, oui. Et j'ai trouvé que c'était quand même très français dans l'écriture, oui. Dans les références, en tant que Québécois de souche pure laine.
J'ai trouvé l'histoire, je le dis tout de suite, intéressante. Mais, bon, c'est très long, mais à aucun moment je me suis vraiment ennuyé. Bon. Mais, malgré la tristesse qui entoure tout ça, mais ce qui m'a agacé un peu, c'est l'argot.
Ah, c'est ça.
J'avoue que pour nous, une meuf, bon, ouais. J'ai compris que c'était une femme, ouais. Mais une meuf ou le taf pour le travail, ouais. Bon, la piole, ça va, on comprend un peu, mm-hmm. Ici, mm-hmm. Mais je sais pas moi, glander sur la dalle. Bon, ouais. J'ai compris un peu, mais au Québec, glander sur la dalle, ça ne s'entend pas tellement souvent. Hein.
Mais vous savez, même moi, si on me disait, je vais glander sur la dalle, je pense... Non, bien sûr. Oh là là.
Réduire la voilure. Il parle de personnage qui réduit la voilure en vieillissant.
Bon, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'ils ont moins de cheveux.
Bah, peut-être. Mais il faut deviner ou on ne devine tout simplement pas.
Mais quand même, vous le recommandez.
Ah oui, c'est sûr. Oui, hein. Malgré la longueur, malgré la noirceur, le cynisme, tout ça, c'est intéressant parce que les portraits d'ados sont formidables. Mm. Vraiment, l'auteur s'est mis dans la peau de ces jeunes-là, 14, 15, 16 ans, jusqu'à 20 ans, et on y croit. Mm. Et ils sont à la fois fragiles et durs. Et ils sont durs entre eux, mais c'est parce qu'ils se cherchent comme on le fait à l'adolescence. Exactement. Ils s'accrochent, ils se battent les uns contre les autres, mais ils reviennent les uns vers les autres, donc pour le portrait d'adolescent, bravo, bravo, bravo. Bon. Mais c'est pas Jojo. C'est pas Jojo.
Bon.
Non.
Mais c'est le prix Goncourt 2018. Oui. Et c'est celui aussi qui a fait parler beaucoup de lui parce qu'on a reproché à la gang, à Pivot, d'avoir donné ça à ce livre-là et non pas au livre qui s'appelle Le Lambeau. Son nom m'échappe, mais qui a été écrit par un des seuls qui a...
Philippe Lançon,
un des seuls survivants de la tuerie. On s'en souvient au Charlie Hebdo.
Un très beau récit. On ne saura jamais pourquoi on a choisi ce livre-là, mais c'est quand même... C'est pas un chef-d'œuvre.
Non, c'est pas un chef-d'œuvre.
Mais il faut s'accrocher. Mais je suis content. Je suis content d'avoir cette découverte. Je ne connaissais pas Nicolas Mathieu, mais c'est quand même triste. Comme paysage, oh là là!
Gérald, merci beaucoup, Gérald Cousineau. C'était notre petite dernière avant les fêtes. Alors, qu'elle vous soit heureuse et festive, hein, ces fêtes, Gérald Cousineau.
Ben vous et à tous nos auditeurs,
d'accord.
Évidemment.
Je rappelle que vous parliez du livre « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, et le spécial Noël se poursuit. Alors, j'ai pour vous d'autres cadeaux de Noël en livre audio à mettre sous les sapins. Et tiens, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien, j'ai choisi cette fois-ci quelques titres du catalogue de Vues et Voix que vous pouvez maintenant vous procurer via notre boutique en ligne. Il suffit de faire livre sonore au singulier, livresonoreausingulier.vuesetvoix.com et vous aurez accès absolument à tous ces livres-là. On va commencer pour les tout petits. Une idée de cadeau charmante à écouter juste avant de s'endormir, c'est l'histoire de Lily Macaroni. Lily Macaroni, Je suis comme je suis, de Nicole Testa, lu par Elisabeth Toussaint. 7 minutes de pur bonheur, en voici quelques secondes.
J'ai les cheveux roux, j'ai des flocons dorés sur le nez. Mamie dit que mes yeux sont comme deux petits bleuets. J'ai aussi un rire magique, je le sais parce que quand je ris, tout le monde rit. Je suis chanceuse parce que j'ai les cheveux comme ceux de maman et le nez de papa. J'ai les yeux de mamie et le rire de papy. Je suis comme je suis, je m'appelle Lily Macaroni.
Et puis pour les tout petit peu plus vieux, tiens, pour les jeunes à partir de 8 ans, les histoires de la gardienne. Une petite description. Ce soir, nos parents sortent. Ils ont décidé de nous faire garder. J'espère que ma sœur et moi, on va pas tomber sur la même gardienne que mon ami Théo. Il paraît qu'il a eu la frousse de sa vie. C'est tout ce que je sais. Il n'a jamais voulu m'en dire plus. C'est de Nadine Poirier, Les histoires de la gardienne. C'est une série. Voici un extrait du tome 1, lu par Jonathan Gagnon.
La gardienne barricade la maison, ferme tous les rideaux. Elle visite les pièces pour établir un périmètre de sécurité, nous précise-t-elle. Puis, elle déballe le contenu de son sac à dos sur la table du salon. Des clochettes pour accrocher sur les portes, très pratiques pour annoncer que quelqu'un cherche à entrer ou sortir d'une pièce. « Une bonbonne aérosol de désodorisant à salle de bain ?» interroge ma sœur. « Oui, pour asperger les yeux des malfaiteurs. Et voici une corde pour attacher les intrus et un rouleau de papier collant ultra puissant pour leur clouer le bec. Ça alors, elle a aussi une lampe de poche pour faire face à une panne électrique, un sifflet pour appeler au secours, de la nourriture au cas où elle serait dans l'impossibilité d'atteindre la cuisine. Une vraie paranoïaque. »
Tout ça sur fond de grelots de Noël, évidemment. Allez, on monte encore en âge pour les ados, les pré-ados, dès l'âge de 12 ans. Ça s'appelle l'école des gars, à l'école des gars. C'est également une série. Là, je vais vous faire entendre un petit extrait du livre 3. C'est signé Maryse Pesquin, c'est lu par Jacques Lussier. Maryse Pesquin, d'ailleurs, qui sera l'une de mes invitées au mois de janvier prochain pour nous présenter ces livres qui, je vous le rappelle, sont disponibles maintenant sur notre boutique en ligne livresonore.vusevoix.com. Nous sommes à l'école des gars qui accueille un nouvel élève, Fabien, un jeune hypersensible, renfermé et timide. Mais peu importe l'histoire, on est à l'école des gars et on en écoute un extrait.
Rémi, un garçon hyperactif, ainsi que ses amis Guillaume, Patrick et Samuel, les jumeaux, Alexis, le dur à cuire, Justin, le timide, Augustin, Olivier, Juan, Thomas, Alexandro et les autres ont tous quelque chose en commun. Ils n'aiment pas vraiment l'école. Pourtant, l'an passé, pour rien au monde, ils n'auraient accepté de rater une seule journée du calendrier scolaire. Normal, ils ont tous intégré l'école des gars. Une école tout à fait originale et amusante, où le plaisir d'apprendre rime avec réussir. Dirigée par un directeur sensible aux intérêts et au potentiel de chacun, les jeunes y ont découvert leurs forces et leurs talents. C'est maintenant au tour de Léonie, Gus et tous les nouveaux de découvrir cette école des plus innovatrices.
Alors, on quitte la cour d'école, peut-être pour aller jouer dans la cour des grands. Je vous présente un extrait de L'amour au temps d'une guerre, dont Madame Louise Tremblay Desciambre était venue nous parler ici même à l'émission à l'occasion du Salon du Livre. Et j'avais regretté qu'on ne puisse pas entendre un extrait de ce livre-là, surtout qu'il est lu par l'auteur elle-même, Louise Tremblay Desciambre. Nous sommes en Normandie en 1939. La France vient d'entrer en guerre, les jeunes hommes sont mobilisés et Françoise Nicolas, fille d'un important producteur de Calvados, ne sait plus si elle pourra épouser son fiancé Rémi tel que prévu. De leur côté, Gilberte et Célestin tentent de comprendre cette guerre qui leur semble bien lointaine. Extrait.
Comment se faisait-il qu'André ne soit pas ici? Pour les autres, il y aurait sûrement une explication qui viendrait plus tard. On ne disparaît pas comme ça sur un claquement de doigts. Et pour André? À moins que... Brigitte imagina alors le pire. Les Allemands avaient peut-être envahi la maison et arrêté tout le monde. C'était possible. Depuis quelque temps, tout était possible. Promenant les yeux autour d'elle, Brigitte se tordait les mains d'inquiétude. Allons donc! On pouvait peut-être bien arrêter des adultes, suspectés de résistance, soit. Et on n'amenait pas un bébé comme Nathan. Il venait tout juste d'avoir 2 ans. Brigitte avait même un cadeau pour lui dans sa besace. Sa besace, restée dans la charrette, et Nathan qui n'était pas là.
« Extrait de L'amour au temps d'une guerre, écrit et lu par Louise Tremblay-Dessiambre. Et puis, si vous avez envie de vous renouveler, peut-être de vous réinventer, eh bien pourquoi ne pas vous faire le plaisir de vous offrir ou d'offrir en cadeau le livre audio « L'art de se réinventer » de Nicole Bordelot. Souhaiteriez-vous vivre le meilleur de votre vie? Tiens, aujourd'hui même, pourquoi pas? Eh bien, ce livre est pour vous. Se réinventer, c'est avoir le courage de transcender ses peurs. C'est apprendre de nos erreurs, c'est nourrir des projets et des rêves tout en appréciant le moment présent. Et puis, cette voix tellement douce de Nicole Bordelot.
Mais comment fait-on pour changer sa vie? Comment faire pour se libérer de ses habitudes, pour dépasser ses angoisses existentielles? Comment accéder à cette excitante aventure de se réinventer? Quel est le premier pas à faire pour y parvenir? Cette période de questionnement, bien qu'inconfortable, est essentielle. Se questionner sur le sens de sa vie, c'est un premier pas vers une transformation intérieure. Nous avons la capacité de nous réinventer sans avoir à tout chambarder autour de nous. Nous pouvons tous faire l'expérience d'une réinvention de nous-mêmes sans changer notre apparence physique, sans quitter notre emploi, notre maison, nos relations. Autrement dit, le point de départ, c'est soi-même. Si vous scrutez très attentivement le monde autour de vous, vous verrez que la vie se réinvente continuellement. Dans la nature, rien ne se répète. À chaque instant, tout est frais. Tout est nouveau. Chaque jour, la vie se transforme. Et chaque jour, elle nous fait la même invitation, celle de nous réinventer avec elle.
Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Des livres plein les oreilles. C'est Clotilde Seille au micro et c'est un spécial Noël. Des livres plein les oreilles à offrir en cadeau de Noël. Alors, en seconde partie de ce spécial Noël à l'émission des livres plein les oreilles, d'autres idées de cadeaux, de livres audio prêts à écouter pendant ces vacances. Il sera question de polar notamment et de quelques livres incontournables. Mais tout de suite, vous avez remarqué que je vous ai beaucoup amené dans le sud, hein? Parce que je me suis dit que ça allait changer. Oui, on fête Noël aussi dans le sud. J'arrive de quelque part, d'ailleurs, ça faisait très drôle de voir sortir les sapins et les bouboules à plus 35 degrés. Je sais pas, il y avait comme quelque chose qui marchait pas dans ma tête. Et puis, ben là, j'ai décidé, tiens, de vous amener au Brésil. Au Brésil, où on connaît très peu la neige, du moins dans le Brésil du Nord, là, parce que c'est quand même assez long, le Brésil, assez grand. Il y a peut-être des coins où il y a de la neige. Il faudrait que je m'informe. Je suis pas très douée en géographie. Mais en tout cas, toujours est-il que là, ça va sonner très brésilien. Et pourtant, ça sonne Noël.
Là onde a neve cai, sinos, festejo a noite de Natal. Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá a neve cai sempre por sobre a lua tropical. O Natal é Christmases, all your Christmases, all your Christmases be white.
On aime ça, un White Christmas aux couleurs brésiliennes, aux couleurs de la bossa nova. On va rester dans le sud, tiens. Cette fois-ci, on va s'en aller au pays de la samba. On s'en va à Cuba, à l'heure où le régime castriste s'essouffle. On fait la connaissance de Don Fuego, qui chante toujours dans les cabarets de la Havane, mais les temps ont changé. Le roi de la rumba et de la samba doit céder la place. On nous dit dans un article que c'est un chant dédié aux fabuleuses destinées contrariées par le sort. Ça s'appelle « Dieu n'habite pas la Havane ». C'est signé Yasmina Kadra, K-H-A-D-R-A. C'est un voyage au pays de tous les paradoxes et de tous les rêves qui allie la maîtrise et le souffle, nous dit-on, d'un Steinbeck contemporain. Madame Kadra qui mène une réflexion nostalgique sur la jeunesse perdue, sans cesse contrebalancée par la jubilation de chanter, danser, et de croire en des lendemains heureux. Un extrait.
Sa mine me déplaît d'emblée. Il me désigne une chaise, me propose une bière que je refuse en restant debout. « Tu tombes de sommeil ?» lui dis-je. « Ça ne pouvait pas attendre demain. »« Demain est un autre jour, Juan. » Il porte un bout de cigare à sa bouche, l'allume et se détourne pour ne pas me jeter la fumée à la figure. « Toute chose a une fin, » grogne-t-il, énigmatique. « Je n'aime pas qu'on tourne autour du pot, Pedro. Va droit au but. C'est à cause de l'incident avec Marcus, c'est ça ? Que s'est-il passé avec ce crétin ? Je ne suis pas au courant. Dans ce cas, pourquoi me retiens-tu ici après le spectacle ? J'ai besoin de me reposer. Tu as vu comment j'ai enflammé l'assemblée ? Oui, j'ai regardé par la fenêtre. Alors c'est quoi le problème ? Pedro tire avec hargne sur son reste de cigare avant de l'écraser dans le cendrier.
Notre bonne vieille boîte passe la main, mon ami. Ce soir, à minuit, elle change de statut.
Il consulte sa montre. Et il est 1h31. Je te demande pardon.
Le Buena Vista tourne la page, Juan. Une dame de Miami vient de l'acheter dans le cadre de la privatisation décidée par le parti.
Cette grosse voix, c'était celle de Bernard Gabay qui lit « Dieu n'habite pas à la Havane ». C'est un livre que vous pouvez retrouver au SQLA gratuitement, mais pas par la même voix, ou alors sur toutes les plateformes commerciales, lu tel que vous en avez entendu un extrait par M. Gabay. Ça s'appelle « Dieu n'habite pas à la Havane ». Le labyrinthe des esprits maintenant, le cimetière des livres, c'est une série de Carlos Ruiz Zafón, cet écrivain barcelonais qui aime tant sa ville, à qui on doit déjà beaucoup de titres, hein, bien sûr, dans la même série, le cimetière des livres oubliés. Vous avez peut-être déjà lu ou entendu L'ombre du vent ainsi que Le jeu de l'ange. Nous sommes dans la Barcelone franquiste des années de plomb. La disparition d'un ministre déchaîne une cascade d'assassinats, de représailles et de mystères. Mais pour contrer la censure, la propagande et la terreur, il y a une jeune fille qui s'appelle Alicia Gris, qui est tout droit sortie des entrailles de ce régime nauséabond et qui est très habile à se jouer des miroirs et des masques. Et son enquête l'amène à croiser la route d'un libraire qui s'appelle Daniel Sampere. Il n'est plus ce petit garçon qui trouva un jour dans les travées du cimetière des livres oubliés l'ouvrage qui allait changer sa vie. Ça, c'était dans les autres bouquins. Mais c'est un adulte maintenant au cœur rempli de tristesse et de colère. En compagnie d'Alicia, tous les membres du clan Sampere affrontent la vérité sur l'histoire secrète de leur famille dans ce nouveau livre de Carlos Ruiz Zafón qui est sorti en novembre 2018, maintenant disponible non pas au SQLA, mais à l'association Valentin Ahuy, autrement dit à la médiathèque à Paris, et également sur les plateformes commerciales de livres audio. C'est lu par Frédéric Maud un extrait.
Elle les vit émerger de l'obscurité du couloir, tels qu'ils étaient. Deux pantins composés pour effrayer quiconque prenait la vie au pied de la lettre. Elle les avait déjà vus, mais sans jamais prendre la peine de se rappeler leur nom. Tous ces fantoches de la brigade lui semblaient identiques. Ils s'arrêtèrent sur le seuil et lancèrent un regard de mépris très étudié à l'intérieur de la pièce avant de poser les yeux sur Alicia en dessinant ce sourire de loup que Leandro devait leur enseigner dès leur premier jour d'école. « Je sais pas comment vous pouvez vivre ici. » Alicia haussa les épaules et termina sa cigarette en faisant un geste en direction de la fenêtre. « C'est pour la vue. » L'un des hommes de Leandro se força à rire, et l'autre remua la tête de droite à gauche. Ils entrèrent dans la chambre, jetèrent un coup d'œil à la salle de bain et examinèrent la pièce du sol au plafond, comme s'ils espéraient y trouver quelque chose. Le plus jeune des deux, qui sentait le néophyte et compensait en prenant des pauses, s'amusa à réviser la collection de livres empilés contre le mur. Elle occupait pratiquement la moitié de la chambre, glissant paresseusement l'index sur le dos avec une moue dédaigneuse. « Il va falloir me prêter quelques-uns de ces petits romans d'amour. J'ignorais que vous saviez lire. » Le néophyte se retourna et fit un pas, l'air hostile, mais son compagnon, et chef probablement, l'arrêta et soupira, excédé.
Un autre auteur dont on attend toujours beaucoup, le petit dernier, c'est Jean-Marie Gustave Le Clézio, qu'on appelle d'ailleurs dans le milieu littéraire, c'est Le Clézio, point. Il nous arrive cette fois-ci avec Bitna sous le ciel de Séoul. C'est un livre, ma foi, nous sommes en Corée avec la jeune Bitna qui a 18 ans. C'est une jeune fille qui invente des histoires pour Salomé. Salomé est une autre jeune fille immobilisée, elle, par une maladie incurable. Et lorsque Bitna s'arrête de raconter, Salomé la supplie de poursuivre ses contes qui lui permettent de vivre par procuration. Et Bitna découvre qu'elle exerce alors un pouvoir inédit sur un être humain, mais aussi qu'elle est observée et espionnée. C'est pas moi qui vais la contredire, Bitna, la lecture à haute voix, ça... Ah, c'est de l'emprise. On va en écouter un petit extrait de Bitna, sous le ciel de Séoul, par Le Clézio.
Parfois, un jeune homme venait, il s'installait à côté de moi, il me regardait lire, et son regard était tellement insistant que je devais quitter le livre des yeux. « Excusez-moi, disait-il, mais le magasin doit fermer dans 5 minutes. » J'étais troublée, je rougissais. J'essayais de trouver une raison. Je n'arrive pas à décider quel livre je vais acheter. Je suis désolée. Lui, inclinait la tête poliment, comme si ça n'avait pas d'importance. Non, non, vous n'avez pas besoin de décider tout de suite. Vous pouvez revenir demain. Il n'était pas très grand. Il avait de jolis yeux noirs en amande et le nez fin. J'ai pensé que je pourrais l'inclure lui aussi, un jour, dans mes personnages favoris. J'ai inventé tout de suite son nom. Je l'ai appelé Monsieur Pack. C'est dans la librairie que j'ai vraiment commencé à observer les gens.
Alors, on va quitter un petit peu la littérature. On va se souvenir que c'est Noël avec Christine Tassin et les Imposteurs qui viennent de nous offrir un disque absolument délirant, qui n'est pas un disque de Noël, qui est un disque qui célèbre l'hiver, avec des chansons qui célèbrent l'hiver. Mais là, tout le monde leur a dit « Ouais, mais là, si tu sors un disque en hiver, il faut qu'il y ait des musiques de Noël. » Elles ont dit « Ah ouais ?» Eh bien tiens, on va toutes vous les mettre en même temps, ces musiques de Noël. Voici donc un medley de Noël par Christine Tassin et les Imposteurs.
La la la. La la la.
papaya, papaya, la la la, papaya, 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 para papa, para ravena, papa, para ravena, para papa, para papa, para papa, para papa, para ravena, papa, para ravena, para la la la, papa, la la la, para la la la, papa, la la la.
Et voilà le travail. Toutes les musiques de Noël réunies sur une seule plage de 2 minutes 23 grâce à Christine Tasson et les imposteurs. Ça vous fait rire, Faline? Bonjour.
C'est bien.
Bon, elles se sont dit, OK, on fait un album d'hiver. D'accord, on va vous en faire des chansons de Noël. Faline Bobier, comment allez-vous, Faline, d'abord?
Ça va très bien, oui.
Bon.
Les fêtes, alors tout ça, les vacances.
C'est ça, ça va faire du bien, hein?
Oui.
Faline, je le rappelle à nos auditeurs, vous travaillez pour CAEB et vous allez nous rappeler très rapidement ce qu'est CAEB.
Ah, OK. C'est le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Donc, on offre le service de bibliothèque pour les personnes qui ont de la difficulté à lire les imprimés.
Mm-hmm.
Donc, ça peut être à cause d'un problème visuel, des fois, il s'agit de troubles d'apprentissage.
Oui.
Ou une incapacité physique qui fait que la personne a de la difficulté à tenir un livre ou à tourner les pages.
Et vous avez, maintenant, ça fait quelques mois qu'une fois par mois, à peu près, vous venez nous présenter des livres de votre choix. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous auriez envie, vous, de mettre comme livre audio en dessous le sapin? Et vous m'avez dit, des bons polars.
Oui, c'est peut-être je montre mes propres intérêts. Mais je pense que la plupart d'entre nous, à Noël ou pendant les fêtes, on n'a pas tellement envie, peut-être, de lire des livres pour s'éduquer, mais plutôt pour le plaisir. Alors, pour moi, j'aime beaucoup lire les polars. Alors, j'espère que j'ai choisi trois livres qui ont été publiés assez récemment.
D'accord. Alors, par exemple?
Alors, le premier, ça s'appelle « Minuit sur le canal San Boldo ». C'est écrit par Donna Leon, qui est une Américaine qui habite à Venise depuis maintenant plus de 35 ans. Donc, c'est toujours la ville de Venise qui est le site de toutes ces histoires.
Okay.
Et ce dernier, c'est-à-dire « Minuit sur le canal », il s'agit, son personnage principal, c'est le commissaire Guido Brunetti. Alors, par compassion pour une amie de sa belle-mère, il va enquêter. Alors, tous les trois livres que j'ai choisis, ce sont des mystères qui remontent dans le passé. Alors ici,
D'accord.
il va enquêter sur un accident qui a eu lieu 15 ans auparavant. Ça a rendu la petite fille de la femme handicapée à vie, justement par une chute du pont Saint-Boldo. Alors, Brunetti, il devra remonter dans le passé pour essayer de trouver la cause de l'accident ou si c'était vraiment un accident ou autre chose.
Et tout ça part d'un souper et je vous propose, vous et tous les auditeurs, d'écouter un extrait de ce livre-là alors que le commissaire Brunetti est invité à un souper et j'imagine que c'est là que tout va commencer.
Oui, c'est ça, oui, ouais.
Il avait toujours exécré les dîners formels et exécré l'idée de devoir assister à l'un d'eux ce soir-là. Le fait de connaître quelques-unes des personnes assises autour de la grande table ne changeait pas grand-chose pour Brunetti, et même si le dîner en question avait lieu chez ses beaux-parents, et donc dans l'un des plus beaux palazzi de Venise, son irritation n'en était pas moins vive. Il y avait été contraint et forcé par sa femme et sa belle-mère, qui avaient allégué que sa position au sein de la ville donnerait du prestige à la soirée. Brunetti avait rétorqué que sa position de commissaire de police n'était sûrement pas à même de donner du lustre à un dîner organisé pour des nantis des quatre coins du monde. Mais sa belle-mère, usant de la tactique des yeux doux qu'il avait pu observer chez elle pendant un quart de siècle, le harcela et fit tant et si bien qu'elle finit par obtenir gain de cause. Puis, jouant sur son talon d'Achille, elle avait ajouté « En outre, Demetriana veut te voir et ce serait me faire une grande faveur que d'accepter de lui parler, Guido. » Brunetti avait cédé et s'était ainsi retrouvé au dîner de la comtesse Demetriana Lando Continui, tout à fait à son aise au bout de cette grande table qui n'était pas la sienne.
Et c'est là qu'on va lui demander de l'aide et qu'il va accepter. Vous avez aussi, vous nous arrivez avec des nouvelles de Cathy Rush. Bon, on le sait que c'est elle hein, qui a, ce sont ses livres, qui ont servi d'inspiration pour la célèbre série télévisée Bones. C'est bien ça, hein?
Oui, oui. C'est une écrivaine américaine. Mm-hmm. Et la mise en scène, si vous avez lu de ses romans, elle va... Ces romans se passent ou bien à la ville de Montréal ou à celle de Charlotte en Caroline du Nord. Et dans ce recueil de nouvelles, il y a seulement 4 nouvelles. Mais la première, c'est vraiment on remonte dans son passé pour l'écrivaine nous révèle pourquoi Temperance Brennan s'est éloignée d'une carrière universitaire prometteuse pour plutôt se plonger dans l'univers macabre, mais addictif, dans un sens, des enquêtes criminelles. Donc, on apprend un peu ses origines dans la nouvelle.
Et ça, c'est vraiment inspirant et intéressant parce que c'est ce qu'on aime avec les nouvelles de Cathy Rush, c'est que ce n'est pas seulement l'auteur, c'est qu'au départ, c'est vrai que c'est son métier, quoi.
Oui, oui, c'est ça. Donc, elle connaît, évidemment, elle s'y connaît.
John le Carré, L'héritage des espions, rapidement, ça aussi, c'est un livre à mettre sous le sapin?
Oui, ben moi, j'ai toujours aimé le Carré. Je pense que c'est vraiment le maître incontesté dans ce genre, c'est-à-dire roman d'espionnage. Et dans ce livre, qui vient d'être publié, c'est la première fois en 25 ans qu'on retrouve son personnage très bien connu de George Smiley. Mm-hmm. George Smiley qui travaillait dans le temps dans les services secrets britanniques ou le cirque, comme on l'appelle dans ses livres. Alors, encore une fois, dans ce livre, le Carré va entremêler le passé du personnage et le présent. Je trouve que c'est vraiment une intrigue ingénieuse, palpitante, où on retrouve un peu le même esprit que dans les deux autres romans où on voit le personnage de Smiley, c'est-à-dire l'espion qui venait du froid.
Oui.
La taupe, qu'on a tourné en film
aussi. La taupe aussi, oui.
Oui, donc moi, j'adorais ce livre.
Que des bonnes idées que nous soumet la Faline Bobier, des bonnes idées de livres audio qu'on peut retrouver via CAEB ou encore via d'autres sites, si vous voulez aussi vous les procurer pour toute la vie, vous les acheter en livre audio. Merci beaucoup, Faline Bobier. On se retrouve l'an prochain?
Oui, oui, très bien. Et bonne... Qu'est-ce qu'on dit en français? Bonne fête?
Oui, joyeuse fête! Okay. Merci, Faline. Merci beaucoup à vous. Je vous propose qu'on termine cette émission en musique avec, je vous avouerai que c'est un peu ma petite préférée, ma petite chouchoute. Je parle de Suzy Arioli avec cet énorme standard des fêtes.
When you wish upon a star, makes no difference who you are.
desires will come to you. When your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star as dreamers do. Fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret love. Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dreams come true.
C'est bon. Et tout l'album est bon. Suzy Arioli et le velours au bout des doigts de Jordan Officer à la guitare. C'est l'album Christmas Dreaming de Suzy Arioli que je vous proposais. Donc un extrait avec When You Wish Upon a Star. Voilà ce qui met un terme à cette émission des livres plein les oreilles de spécial Noël. J'espère vous avoir donné des idées pour les tout petit, pour les ados, pour les adultes, pour les gens qui aiment le polar, pour les gens qui veulent tout de suite se plonger dans le prix Goncourt. Bref, il y en avait, je pense, pour tous les goûts. Surtout, n'oubliez pas que maintenant, Vues et Voix a sa propre boutique en ligne. Alors, pour vous procurer, vous aussi, des livres commerciaux produits ici même par Vues et Voix, rendez-vous sur le site livres sonores au singulier .vuesetvoix.com et même qu'on offre 20%. Si vous allez acheter dès maintenant un ou plusieurs livres, on offre 20% jusqu'au 31 décembre prochain. Voilà, merci beaucoup à mes invités Gérald Cousineau et Faline Bobier. Merci à tous ceux qui se prêtent au jeu de la lecture à haute voix, que ce soit pour les livres adaptés ou pour les livres commerciaux. Et merci à Mathieu Tessier de m'avoir épaulé si gentiment une fois de plus à cette émission. C'était Clotilde Say qui vous souhaite un très joyeux Noël et à bientôt.